Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité à Nous n'avons qu'une terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'eau. Le 25 mars 2023, à Sainte-Soline, rappelez-vous, un déluge de grenades s'abat sur les manifestants. Plusieurs personnes restent à terre, 2 tombent dans le coma. Marqués par cet épisode, 2 journalistes, Fabien Benoît et Nicolas Selnick, se lancent dans une vaste investigation. Ils viennent de publier, après 2 ans d'enquête, « Aux liens qui libèrent les assoiffeurs », une enquête donc sur ces entreprises qui accaparent notre eau. L'un d'eux, Fabien Benoît, est avec nous. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, vous travaillez pour Reporter, pour L'Humanité, pour La Provence, et j'en passe. Vous êtes également auteur, réalisateur de nombreux documentaires, et j'ai l'impression presque que c'est un peu dans ce domaine que vous continuez à travailler.
Oui, je fais différentes choses. Alors, j'ai commencé à La Provence, ça remonte il y a très longtemps, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Mais oui, effectivement, je fais différentes choses, notamment j'écris des livres et je fais des documentaires, qui est quand même mon activité principale, en effet.
Voilà. Alors, vous avez récupéré à La Provence un des rédacteurs que nous aimions beaucoup, qui s'appelait Olivier Biscay, qui était ici à Midi Libre et qui est reparti à La Provence. Alors, choqué par les événements qui se sont déroulés à Sainte-Soline et face à l'impunité et des forces de l'ordre et des agriculteurs qui réclament des méga-bassines, vous avez lancé votre enquête. Alors, la loi sur l'urgence agricole qui vient d'être votée réactualise la prédation de l'eau à des fins agricoles. De quoi s'agit-il exactement, cette prédation à des fins agricoles ?
Nous, effectivement, oui, le cas de Sainte-Soline, la répression des manifestations a été un point de départ de notre enquête. La lecture qu'on en a faite, c'est qu'en fait le pouvoir, le gouvernement en l'occurrence, était prêt à défendre un modèle qui n'est pas une bonne solution, pour défendre un système, pour défendre un statu quo qui est celui de la confiscation de l'eau par quelques agriculteurs, puisque ce qui est en cause, c'est pas l'agriculture dans son ensemble. Les bassines, en fait, elles concernent un très petit nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, plutôt de grande taille, plutôt des gens qui font des céréales, quoi. Il faut rappeler à ce titre-là, et c'est important de garder ce chiffre-là en tête, que l'agriculture irriguée en France, c'est 7 à 8% des surfaces agricoles, donc c'est très peu. Hein. Et c'est finalement cette agriculture irriguée, essentiellement céréalière, qui a besoin d'eau et qui consomme près de 60% en fait de l'eau douce en France, quoi. Donc il y a un véritable accaparement par une petite partie du monde agricole, hein, par l'agro-industrie, de l'eau, à des fins qui sont pas celles de nourrir les populations, mais d'exporter en l'espèce ces céréales à l'étranger. Donc vraiment, c'est ce modèle-là que le gouvernement essaie de défendre, c'est le modèle agro-industriel. Et il y a plein de textes ces dernières années, ces derniers mois, l'actualité elle est incessante autour de ce sujet-là, qui viennent renforcer en fait cette mainmise-là. La dernière itération de ça, vous en avez parlé, c'est la loi d'urgence agricole, qui relance en fait les bassines d'une certaine manière, qui donne de plus grands pouvoirs aux préfets pour faire en sorte qu'elles se développent.
Alors justement, vous utilisez d'ailleurs des termes très très forts, puisque vous dites qu'ils ont fait main basse hein, sur l'eau, ils ont privatisé un bien commun. Bon, c'est un jugement qui est quand même sévère. Alors, que vous voulez-vous dire quand vous dites « ils ont fait main basse hein, » et puis « qui sont-ils » Alors, qui sont-ils? Vous nous l'avez dit un peu déjà, ce sont donc les grands maïsiculteurs, les grands propriétaires terriens. Et ce que vous appelez aussi l'agriculture irriguée, c'est-à-dire les 6% que vous venez de nous citer. Mais comment ont-ils fait pour faire main basse sur l'eau?
Bah, je pense que déjà le terme d'assoiffeur ou d'accapareur, il n'est pas du tout exagéré. Hein. C'est-à-dire que quand on voit effectivement, comme je le rappelais à l'instant, qu'il y a une infime portion du monde agricole, l'agro-industrie en l'occurrence, qui consomme près de 60% de l'eau douce en France, qu'on est dans une situation où il y a de plus en plus de tensions autour de la ressource quant à sa disponibilité, quant à la qualité de l'eau également. Il y a eu un rapport en 2025 du Haut Commissariat au plan, hein, donc on ne peut pas accuser d'être un organisme gauchiste, écolo ou tout ce qu'on veut, qui expliquait qu'en fait il fallait de manière extrêmement urgente revoir les usages qui étaient faits de l'eau, parce qu'en fait on ne pourrait pas les soutenir dans les années qui viennent. Quoi.
Alors, pourtant vous avez, enfin, on sent qu'il y a un glissement qui s'est opéré dans le temps, dans les années 60 à 80, la France était assez exemplaire dans sa gestion de l'eau, puisque même on a été un peu modèle à chaque fois qu'il y avait un forum mondial de l'eau, on citait la France et on a travaillé sur finalement ce que nous appelions nous une gestion de bassin, c'est-à-dire une gestion qui était une gestion de l'eau assez démocratique.
Oui, absolument, il y a des bonnes choses en France. Hein. La fameuse démocratie de l'eau à la française, il y a plein de mécanismes qui sont vertueux. Hein. La gestion par bassin versant dont vous parlez, les parlements de l'eau, les commissions locales de l'eau, il y a un fonctionnement qui est plutôt démocratique. Mais alors là, si on voulait rentrer dans le détail, on peut voir que ce fonctionnement démocratique, il est déjà entaché, abîmé, grippé, par des questions de représentativité au sein de ces instances, hein, c'est-à-dire que l'État, les collectivités locales, territoriales sont représentées, les élus et les acteurs économiques et les associations, et souvent en fait celles et ceux qui défendent en fait le partage de la ressource sont en très grande minorité, considérant, et ça des travaux universitaires l'ont montré, qu'en fait il y a une tendance à voter presque, j'allais dire, d'un seul homme entre l'État, les collectivités et les industriels. Donc ça, c'est une première remarque qu'on peut faire. Après, ce qui a changé aussi par rapport aux années 60, 70, 80 que vous évoquiez, c'est que la situation a changé. C'est-à-dire que le productivisme agricole s'est développé, l'artificialisation du monde a avancé, ce qui nous conduit à des situations de plus forte tension, quoi. Si on rajoute évidemment le réchauffement climatique, qui lui aussi est d'origine humaine, on arrive à une situation que l'ONU, par exemple, qualifie de faillite hydrique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une crise passagère, mais qui est une faillite systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et nous, précisément, le propos de notre livre, c'est de pointer quand même des responsabilités en disant que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça parce qu'on n'a pas la chance, mais il y a des responsables, il y a des gens qui consomment de l'eau de manière démesurée, et puis surtout, et c'est le propos de notre livre, il faut questionner les usages de l'eau. Pourquoi se sert-on de l'eau ? Quelle est l'utilité sociale, d'une certaine manière, de cette eau qu'on utilise, quoi ? Parce qu'en fait, si on ne réfléchit pas aux usages de l'eau, on ne peut pas répondre à la situation et on va forcément se diriger vers un contexte où les citoyens vont être pénalisés, vous, moi, tout le monde, et où, de manière presque fatale, en fait, les milieux, la nature, l'environnement, pour le dire comme ça, va en pâtir aussi.
Alors,
donc, il est important.
Oui, on va y revenir, je pense. On va pouvoir parler de cela dans quelques temps. Mais d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est comment finalement est-on passé d'un système qui était presque exemplaire à cette espèce de mainmise sur l'eau, c'est-à-dire qu'en l'espace de 30-40 ans, il y a eu une organisation néfaste par rapport à l'eau. Et comment on avait au départ des systèmes qui étaient des systèmes bienveillants, qui étaient des systèmes démocratiques. Comment les choses sont-elles arrivées à ce niveau ?
Ben, moi je ne fais pas la même lecture que vous. Je ne pense pas qu'il y a eu un moment où en fait on était dans quelque chose de totalement vertueux qui s'est dégradé pour arriver à une situation qui n'est plus vertueuse en l'espèce. Je pense qu'en fait, il y a la question institutionnelle, c'est-à-dire celle dont on parlait, la gestion par bassin versant, et tout en fait une séquence historique où des progrès ont été faits, de ce point de vue-là, quoi. Des progrès ont été faits au niveau l'organisation institutionnelle et de la gestion démocratique de l'eau, mais aussi des textes de loi au niveau de la France et de l'Europe qu'on a voté, la directive cadre européenne sur l'eau qui protège la ressource, qui demande à tous les États de protéger sa qualité et sa disponibilité quantitative. Mais dans le même temps, en fait, c'est aussi installer et développer le recours à l'irrigation dans l'agriculture, une forme d'encouragement à cette irrigation productive.
Oui, effectivement, vous accusez aussi les technologies, des technologies miraculeuses, entre guillemets, qui font que petit à petit, on oublie que cette eau, elle nous appartient, elle appartient à tous.
Oui, ouais, bien sûr. Et juste pour finir ce que je disais avant, je boucle juste la boucle. On parle aussi dans le livre des embouteilleurs d'eau, donc ces entreprises que tout le monde connaît, hein, Nestlé, Alma et d'autres qui embouteillent de l'eau. Ils sont pas, ils datent pas d'aujourd'hui. Hein. L'histoire est très longue en fait de l'embouteillage de l'eau et c'est au fil du XXe siècle que s'est installé finalement aussi cet accaparement de l'eau par les embouteilleurs. Comme je disais précédemment, c'est la situation qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus le mythe de l'eau abondante, il est largement entaillé. Donc en fait, il faut re-questionner tout ça. Et effectivement, les technologies, elles sont là, d'une certaine manière, pour éviter de questionner les usages qui sont faits de l'eau et pour essayer de maintenir le statu quo. Mais c'est un peu la formule magique de notre époque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on va évidemment, on va avancer une solution technique pour y répondre en disant « ne change rien ». La technologie, de manière miraculeuse, presque incantatoire, va nous permettre de résoudre la question, sauf qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et que toutes les innovations technologiques qu'on connaît viennent avec un coût, viennent avec des contreparties, viennent avec des effets négatifs. Et précisément, c'est ce qu'on raconte dans le livre, parce que sur la question de l'eau, la réponse politique aujourd'hui qui est faite notamment par les gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est une réponse qui est éminemment technologique, dans l'idée de se dire ne changeons rien, la technologie va nous sauver.
Alors, moi, j'y vois quand même aussi quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'à la fois, on développe des technologies qui sont, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, qui sont vues comme miraculeuses, etc. Mais on a en même temps un espèce de manque d'anticipation. C'est-à-dire quand même que si on se rapproche des premières publications des rapports du GIEC, c'était dans les années 80. Donc, si on avait cru, s'il n'y avait pas eu ce déni à l'égard du réchauffement climatique, on aurait pu peut-être anticiper ce passage de la qualité, parce qu'on continue à travailler sur la qualité, de la qualité à la quantité. Or, ça n'a pas été fait. Alors, pourquoi ? Parce que des gens croient vraiment en eux ?
Je pense qu'en fait, je suis d'accord avec votre constat. Hein. Il y a une forme de déni, hein, si on parle aussi... Au rapport Meadows du Club de Rome, c'est-à-dire que tout avait déjà été écrit il y a plus de 50 ans, en fait, hein, et ça n'a pas été suivi de fait. Je pense qu'il y a un travail intense aussi de l'industrie et de conviction vis-à-vis des politiques de l'industrie pour se dire qu'en fait...
Donc c'est les politiques qui sont responsables quand même.
Bien sûr, c'est eux qui font les choix. Je pense qu'en fait, il y a depuis des années, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir... des militants, des associations qui travaillent sur ces sujets et qui font des choses formidables. Hein. Nous, à chaque fois, on doit leur rendre hommage parce que dans l'écriture de notre livre aussi, on s'est appuyé sur pas mal d'expertises militantes, citoyennes. Il y a des gens, voilà, la revendication, le militantisme autour de l'idée de l'eau comme un bien commun à préserver, à défendre, il n'est pas nouveau, quoi. Bien sûr que c'est de la responsabilité des politiques de pas être au niveau, en fait, et de défendre les intérêts de l'industrie avant ceux des citoyens et avant ceux du vivant. Et c'est précisément, en fait, le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pendant qu'on se parle, c'est-à-dire en 2026. C'est-à-dire qu'il y a un basculement, c'est-à-dire on évoquait précédemment plein de progrès qui avaient été faits, plein de vallons qui avaient été posés en termes de législation, d'organisation institutionnelle autour de la gestion de l'eau, qu'il faut quand même, qui ont des qualités. Aujourd'hui, on assiste à un détricotage en bonne et due forme, à une attaque en règle contre tous ces textes, contre la démocratie de l'eau aussi, de détricotage. Pour quelles raisons? Avec quels objectifs? Favoriser la croissance, favoriser l'emploi la bonne santé des milieux et des citoyens, puisque c'est de ça dont on parle. Et finalement, l'habitabilité du monde, j'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire notre capacité à habiter le monde dans les années et les décennies qui viennent. C'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, le sujet aussi nous a interpellés, parce que c'est un sujet qui est vital. L'eau est vitale, on enfonce des portes en disant ça. Mais l'enjeu, c'est la vie, quoi, d'une certaine manière.
Alors, vous décrivez un certain nombre, d'ailleurs, de technologies alternatives. Est-ce que vous croyez, franchement, qu'il est encore temps et que l'ensemble de ces mesures peuvent aujourd'hui encore suffire?
Moi, je pense que sur la question de l'eau, comme sur plein d'autres questions, problématiques environnementales ou sociales, tout est sur la table, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les constats, ils sont posés, quoi. Je mentionnais l'ONU, je mentionnais le Haut Commissariat au Plan. Il y a quantité de rapports, il y a quantité d'expertise scientifique, il y a quantité de travaux journalistiques qui mettent des mots sur tout ça, qui objectivent, en fait, la question. Et il en va de même pour les solutions. C'est-à-dire que quand les gens parlent aujourd'hui, et plein de gens parlent de ça, de solutions inspirées de la nature, de l'idée de réhydrater les sols, de restaurer des zones humides, de replanter des haies, de décorseter les rivières, de désartificialiser les sols. En fait, on sait que ça marche. On sait qu'en fait, en faisant ça, on a un système, on a un écosystème plus robuste, pour ne pas dire plus résilient, et qu'en fait, les sécheresses sont moins sévères, les crues sont plus faciles à encaisser d'une certaine manière. En fait, on a toutes ces solutions. D'ailleurs, il y a déjà des expérimentations qui sont menées. Il faut quand même aussi dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déni total. On va aussi dans ce sens-là. Mais on y va de manière assez timorée et sans commune mesure avec ce qui est fait pour maintenir le statu quo, le business as usual, la croissance et le business de certaines industries.
Mais avouez que quand vous évoquez ce type de solution, c'est évoqué dans la masse aujourd'hui de la violence entre les États, de la concurrence et de l'absolu règne de l'argent, que aujourd'hui on a très peu de chances de le voir. De la même manière, vous écrivez par exemple qu'il n'y a pas de guerre de l'eau, qu'il y a des tensions qui vont s'accroître. On peut voir les choses autrement. On peut penser qu'il y a déjà eu et qu'il y aura encore des guerres de l'eau, simplement que la tradition journalistique qui consiste à toujours voir les choses du côté du politique ou du géopolitique et non pas du côté environnemental fait que, on atténue ces tensions. Si on prend par exemple l'Irak, c'était une guerre. Hein. C'était une guerre de l'eau.
Non, mais bien sûr. Je veux dire, il y a une longue histoire de conflits autour de la ressource. Il y a aussi l'eau dans la guerre. On le voit très bien en ce moment au Moyen-Orient, à quel point on vise des installations qui servent à alimenter les populations en eau. Nous, ce qu'on voulait, en récusant d'une certaine manière ce terme dans le cas de la France, c'est de dire qu'il y a... En fait, on a le sentiment avec Nicolas que des fois, ce terme fait un peu écran. Voilà, tout de suite, tous les journalistes disent « il y a une guerre de l'eau ». En fait, il n'y a pas nécessairement une guerre de l'eau, c'est-à-dire comme une sorte de forme
D'accord,
de fatalité.
Je comprends, oui.
Mais il y a une guerre contre la ressource, c'est-à-dire qu'on l'abîme et on contribue à sa raréfaction. Et donc, on contribue à ce que cette ressource-là ne se renouvelle pas et ne soit pas préservée. Donc, on préférait mettre l'accent sur cette idée qu'il y a... Avec les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui, celles que j'ai mentionnées et bien d'autres, en fait, il y a une guerre qui est menée contre l'eau, quoi. C'est-à-dire contre sa bonne qualité et contre sa disponibilité. Et c'est très important de le rappeler. Et pendant qu'on se parle, en cette année 2026, est aussi mise sur la table, par exemple, la révision de la directive cadre eau qui impose aux États européens de préserver la bonne qualité quantitative et quantitative de la ressource. Il y a des lobbies qui travaillent pour qu'en fait cette directive-là, qui est vraiment une clé de voûte dans les politiques européennes et nationales, soit assouplie pour
Alors,
qu'on puisse en fait
c'est certain
la
que,
qualité de l'eau.
C'est certain que vous avez raison, il faut donc se battre momentanément contre effectivement le fait que cette directive de l'eau n'apparaisse pas, mais en même temps on voit arriver et exactement au même moment les plus gros prédateurs, les futurs data centers dont nous avons d'ailleurs parlé à cette émission la semaine dernière. Et pour rappel, l'eau doit couler en permanence pour rafraîchir ces monstres si on veut pas perdre de données du fait de la chaleur. Bon, on a très bien vu à Chouze, par exemple, que l'État est complice, qu'il y a une mise en scène démocratique de tout ce rapport à l'eau.
Bien sûr, c'est tout le propos de notre ouvrage, hein, c'est de montrer à quel point ces industries sont accompagnées par l'État et par les politiques publiques. Et d'ailleurs, il y a toute une partie qui est consacrée au numérique. Hein. Moi, les data centers, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on en parle dans le livre. On dépasse même le cas des data centers pour parler de toute la chaîne de valeur du numérique, c'est-à-dire depuis l'extraction de terres rares, de toutes les matières nécessaires à notre monde numérique, en passant par la fabrication de semi-conducteurs jusqu'au data center et jusqu'au téléphone qu'on a entre nos mains. Nous, on qualifie ça du gouffre hydrique qui vient, mais à quel point c'est il y a un gouffre en matière d'eau qui se dessine. Et ce à quoi je faisais référence concernant la directive cadre européenne sur l'eau, les lobbies qui poussent sont des lobbies de l'industrie numérique, hein, notamment. C'est le lobby minier également, pour réouvrir des mines en Europe. Donc tout ça, oui, tout ça, effectivement, on en parle dans le livre, et tout ça fait sens. Et effectivement, le numérique fait partie des assoiffeurs, des accapareurs dont on parle, parce qu'il y a aussi une dimension un peu prospective dans notre livre. Il y a aussi les menaces qui viennent, d'une certaine manière.
Absolument. Donc, en fait, vous avez effectivement une approche un peu prospective, et c'est à ce sujet, c'est en cela que c'est effectivement très intéressant ce livre sur les assoiffeurs, parce que on regarde pas seulement dans le rétroviseur, mais effectivement, on est un peu sur les projets qui sont en train de se construire. Est-ce que vous croyez très sérieusement, on va pouvoir lutter contre les data centers? C'est une question que me pose également.
Moi, ça fait 15 ans que presque je travaille sur les sujets liés au numérique. J'espère, je souhaite toujours que cette question-là, elle soit davantage politisée, au sens qu'elle fasse vraiment l'objet d'un débat public, d'un débat citoyen. Alors moi, je vois depuis des années des gens qui se mobilisent sur ces questions-là, hein. Qui contribuent au fait qu'on en parle aujourd'hui, qui s'opposent à des projets, ça peut être à Marseille, ça peut être à Fouzy, il y a plein d'endroits où il y a des mobilisations citoyennes. Évidemment, on fait face à une sorte de rouleau compresseur qui est soutenu par l'État. Hein. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose quand il dit qu'il veut, je ne sais plus, 150 projets cathédrales en France, donc des grands projets industriels et parmi eux des projets de data center, de mines, de semi-conducteurs et compagnie. Donc il y a vraiment une forme de en rouleau compresseur face à nous. On voit que tous les textes de loi essaient d'encourager, en fait, dérégulent, lâchent la bride, en fait, à cette industrie-là, à plein de niveaux, et notamment au niveau des contraintes environnementales, et qu'il y a aussi une volonté de pardonnez-moi, d'abîmer ou de réduire toute possibilité de débat public, hein, par exemple en réduisant le périmètre de Commission nationale du débat public, voilà.
Ou en ne les respectant pas, parce que parfois ils ont même lieu et on n'en respecte pas les conclusions.
Non, mais bien sûr, on vit un moment de backlash écologique, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier, donc le contexte n'est pas favorable. Après, évidemment, il y a plein de gens qui font des choses, qui se mobilisent, avec parfois des succès, hein, c'est-à-dire, pour en revenir à ce dont on parlait au début de l'émission, les méga-bassines, ce terme-là, il s'est installé dans le débat parce qu'en fait, des militants l'ont installé, quoi, et ont contribué à politiser ce sujet-là, quoi, à tel point que certains porteurs de projets des méga-bassines ont jeté l'éponge, quoi.
D'accord, et on risque pour les data centers de voir à peu près, peut-être aussi les choses se dérouler un peu de la même manière. J'étais ce matin à une conférence de presse d'Enedis, on a déjà un problème de transport de l'énergie, des blocages parce que le réseau n'est pas assez puissant, donc il y aura l'eau, il y aura l'énergie, il risque d'y avoir des barrages importants.
Oui, bien sûr, il y a plein de questions liées au data center, si on veut parler de ça, qui sont liées évidemment à la consommation électrique, à la consommation d'eau, à l'emprise au sol, au fait que c'est une industrie qui emploie peu de monde, hein, contrairement à ce que disent ses promoteurs. Il y a quand même peu de monde qui travaille dans des data centers par rapport à d'autres projets. Et puis, il faut évidemment questionner l'utilité sociale de tout ça, hein, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire à quoi ça sert, en fait. Par exemple, toute cette énergie mobiliser toute cette eau nécessaire, ça sert à quoi d'un point de vue social? Si ça sert à scroller des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, on peut questionner l'utilité sociale de tout ça, quoi. C'est aussi ce qu'on met en jeu dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'il y a il y a des usages, pour revenir à la question de l'eau, il y a des usages qui sont prioritaires. Et d'ailleurs, ils sont inscrits dans la loi, notamment dans la loi LEMA, dans la loi sur l'eau, les milieux aquatiques, où on dit, qui pose grosso modo qu'en fait, la priorité va à l'eau pour les citoyens, pour la boisson, ensuite pour les milieux, et en dernier ressort pour les usages économiques, quoi.
Donc,
c'est tout ça qui est attaqué aujourd'hui.
Respectons le droit d'abord. Alors, j'aurais aimé un petit peu que vous nous disiez deux mots quand même sur un autre de vos ouvrages qui se réfère aux technoluttes, et vous y donnez des conseils. Enfin, c'est pas que vous donniez des conseils, mais vous permettez de nous montrer que parfois, on peut résister à ces technologies très, très fortes et que certains y arrivent. Comment est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Oui, bah, Technolude, c'était un autre livre qu'on a écrit avec Nicolas Selnick il y a quelques années, où l'idée, c'était de faire une sorte de tableau panorama des résistances à la numérisation du monde. Quand je dis numérisation du monde, l'irruption, l'arrivée partout en fait de dispositifs numériques, d'applications, d'algorithmes, dans tout un tas de métiers en fait. Ça peut concerner des travailleurs chez Pôle Emploi, des gens qui font de la manutention, des professeurs, des instituteurs,
Il
des
est
agriculteurs.
Encore temps.
Comment?
Il est encore temps.
Ouais. Et donc voilà. Donc en fait, c'était de prendre le pouls de tout ça et de montrer qu'en fait, il y avait des gens qui résistaient à ça, et puis surtout de caractériser ce que ça voulait dire, en fait, cette numérisation croissante du monde. Alors aujourd'hui, on ne cesse de parler de l'intelligence artificielle. C'est un stade supplémentaire dans cette numérisation du monde, mais on se rend compte qu'en fait, cette numérisation du monde, elle met à mal le travail, la vie en collectivité, la démocratie. Quand je dis ça, je dis rien d'original, mais en tout cas qu'elle détruit beaucoup de choses, pour le dire comme ça.
En tout cas, on a sans doute besoin d'autres livres comme celui que vous avez écrit avec Nicolas Selnick. Je rappelle le titre, Les Assoiffeurs, enquête sur ces entreprises qui accaparent notre eau. Alors, cela a été édité par les éditions Les Liens qui libèrent, et bon, je le recommande vraiment parce qu'on apprend énormément de choses. Et puis, ce qui est agréable, c'est qu'effectivement, on suit votre enquête, c'est-à-dire que c'est un travail de journaliste, on n'est pas dans un rapport, hein, mais on voit des réalités, on se confronte à des réalités. Voilà. Merci Fabien.
Ben, je vous remercie. Merci.
Alors, c'est la fin de notre émission. La semaine prochaine, eh bien, on va s'envoler pour Madagascar, hein, où règne malheureusement une trop grande pauvreté. Au revoir et bon week-end à tous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.